Ménage, saison 2. Et quoi de mieux pour démarrer cette rentrée qu'une explosion de couleurs et un invité dont la vie ressemble à un tableau de Jackson Pollock. L'homme du jour est le fils spirituel de Freddie Mercury et d'Elton John, la moustache en moins, une tignasse en prime, visage de pâtre grec, silhouette de top modèle et des mélodies bubblegum, légères, solaires, dangereusement contagieuses. Effet supradine garanti. En 2007, sa pop Prozac, joyeusement acidulée, légèrement agressive, bricolée dans sa chambre, se propage sur les ondes. C'est une tornade. Le beau gosse surdoué, à l'aura polysexuelle capable de jongler sur 4 octaves et de séduire un moine trappiste, est aussitôt sacré le nouveau king de la pop arc-en-ciel. Extravagant, excentrique, il puise dans ses obsessions, brouille les genres, sonne la récré et collectionne les tubes planétaires comme moi les PV. Un cas, ce Mika.
France Inter, Daphné Roulier, la vie est un jeu.
Et maintenant, me voilà.
Bonjour, coach. C'est vrai que vous êtes un cas, quand même.
Aïe. Mais il y avait des jolis mots, hein.
C'est
dans,
vrai.
Dans cette... non, c'était très beau. Ouais, j'aime bien bricolage, parce que c'est exactement ce que je considère que je fais. C'est du bricolage un peu plus compliqué, qui a évolué.
D'ailleurs, Pete Townsend, le guitariste des Who, vous avait donné un conseil, restez un artisan, pas un artiste.
Exactement. Et lui m'avait dit quelque chose d'autre qui était très important. Il a dit que l'inspiration se provoque avec de la discipline. Et normalement, si quelqu'un dit quelque chose comme ça, on considère pas trop. Parce qu'on se dit, bon, ils sont pas rock, ils sont trop sérieux. Mais quand ça vient de Pete Townsend, qui représente un peu l'esprit de la liberté, l'esprit de l'inspiration qui semble devenir de nulle part, ça a un poids complètement différent.
Donc vous suivez ce précepte à la lettre, à l'octave ou à la croche près?
C'est ouais. Ça, je pense que...
Vous restez un artisan, pas un artiste.
Exactement. C'est le résultat de quand le travail d'artisan fonctionne bien et quand on a bien géré nos responsabilités.
Alors, vous êtes aussi, Mika, un puissant antidépresseur, si l'on en juge par les 10 millions d'albums vendus en à peine 8 ans. Qui a dit que l'industrie du disque était en crise? Vous êtes l'exception qui infirme la règle, vraiment.
Je sais pas, je pense que j'ai un privilège. Depuis le départ, parce que je viens de plein d'endroits, j'avais pas peur d'assumer une tournée. Alors donc, tout de suite, je faisais des tournées autour du monde. Et ça veut dire que maintenant, je me retrouve après presque 10 ans avec une carrière qui est dans des petits morceaux partout autour du monde. Et donc, ça m'aide beaucoup à me stabiliser.
Un globe singer.
Une valise.
Ouais, une valise. En tout cas, votre success story pourrait à elle seule fausser les statistiques alarmantes de l'industrie du disque et faire trembler les lobbies pharmaceutiques. Sérieusement, vous êtes le premier concurrent du Prozac. Vous avez envie d'être un antidote au spleen et au stress contemporain. Finalement, la crise est votre meilleur allié.
C'est pas que j'ai envie, c'est que j'écris pour moi-même. Je suis fondamentalement... égoïste.
Non mais
j'écris pour moi-même, je me mets devant un piano.
Oui, mais c'est vrai, mais c'est pas tout à fait vrai. Parce que vous militez pour la démocratie de la joie, vous avez dit ça.
Ouais.
On a le sentiment que finalement vous cherchez à ressusciter la musique des Trente Glorieuses, cette bande-son de l'insouciance d'avant la crise et du cynisme.
J'ai des héros, par exemple. J'ai des gens comme Fellini, Gainsbourg.
Gainsbourg vous a appris le sexe, dites-vous.
Ouais, le sexe et aussi l'humour du sexe. Et la puissance de l'idée du sexe. Principalement, lui, il jouait sur ce concept de la joie profonde, intense et dangereuse. Et vraiment, il n'y a personne comme lui. Il est une des personnes les plus importantes dans l'histoire de la culture française.
Et importante, manifestement, c'est un référent important pour vous. On va revenir sur vos référents, Mika. Mais d'abord, vous connaissez le principe de la vie est un jeu. Pas de promo, que de l'ego.
Ouais.
C'est le mantra de l'émission. Vous pouvez vous détendre, mettre les pieds en éventail.
Pas de promo, seulement des égoïstes.
On va parler que de vous et de ce qui vous a construit. Sur la planète Mika, on trouve donc une mère couturière, un père banquier, une fratrie nombreuse, un esprit maison, un univers bariolé et des déménagements successifs.
Baptisé comme les gitans du 16e.
Absolument, le nomadisme. Alors, après une naissance au Liban, 8 années à Paris 16e, vous mettez le cap sur le lycée français de Londres, et là, c'est la douche froide. Vos pantalons rouges et nœuds papes turquoises passent mal. Insultes, moqueries, brimades. L'école vire au calvaire. À 11 ans, bonne nouvelle, vous êtes viré, mais sombré dans le mutisme. La musique devient votre refuge. Vous vous y créez un avatar, un peu comme sur Second Life. Vous ingurgitez Prince, Bowie, Queen, Harry Nilsson, l'intégrale Disney, Françoise Hardy, Tino Rossi, Barbara, Abba, les Bee Gees, Elton John, George Michael, je vous vois au pied du chef. Composer des maquettes piano-voix, vous intégrez le Royal College of Music, Mika est sur orbite, on rembobine. Mika, en quelques sons, cela donne ceci, signé Anne-Sophie Ladon.
You said you had something to say.
Les Bayrou.
Do you love life?
من قلبي سلام لبيروت.
Not too active.
وقبل للبحر والبيوت.
Anything else bothering you?
We are not what chimps think we are. We are golden. We are golden.
À présent, tu es rentré dans un monde magique.
C'est un pays où les gens ne vont pas par le bateau, ni par le train. C'est loin, bien loin. Plus loin que la lune. Plus loin que l'arc-en-ciel.
Va, j'ai toujours la route de brique jaune.
Wonderful music coming from.
J'ai fait tout ce que j'avais envie de faire, comme j'avais envie de le faire. Ce métier a ceci de merveilleux qu'il est une aventure.
Mais j'ai tout essayé. Je fais semblant de croire, et je reviens de loin, et mon soleil est noir.
Of course, music is important to me, and because that's my life. Now, the most important thing to me is to be happy, to have fun. Happiness is the most important thing.
Love of my life, love of my life.
Vous vous y retrouvez, Mika? Ça vous ressemble?
Il n'y a rien comme la radio. Ce collage sonore a été sincèrement un énorme cadeau. Et aussi, je dois dire qu'un collage comme ça, avec ces références-là, ça provoque une sorte d'animation de Studio Ghibli dans notre cerveau que rien d'autre peut provoquer. C'est magique, ça. C'est pour ça qu'il y aura toujours, toujours la radio, parce que ça nous fait rêver.
Alors j'aimerais que l'on revienne sur vos influences. Et d'abord, la première d'entre elles, votre mère, omniprésente. Parlez-moi d'elle.
Ma mère.
Elle était couturière.
Ma mère, oui.
Styliste.
Mais rien n'est simple avec ma mère. C'est quelqu'un qui est l'incarnation de la contradiction humaine. Quelqu'un qui a vécu, qui a eu une histoire assez hallucinante. Sa mère avait 16 ans quand elle s'est mariée à un homme qui avait plus de 55 ans. Sa mère était libanaise, son père syrien. Ils sont arrivés à New York. Lui, il est devenu très, très, très riche. Avec ses frères et ses sœurs, il avait tout sur un âne. Ensuite, il a pris le bateau, il est arrivé à Ellis Island. Il faisait des tissus. Il a construit un truc. Tout d'un coup, toutes les femmes, parce que c'est ma mère et plein de ses sœurs, elles ne savaient pas comment gérer, et ma grand-mère aussi, toute l'affaire. Il est devenu très malade. Il est mort. Il y a une crise en même temps. Il perd tout. Mais tout, tout, tout. Et après ça, elle a dû faire énormément de sacrifices. Elle voulait devenir docteur, elle fait plus ça, elle change. Et tout d'un coup, elle se dit, je m'échappe, je me barre. Elle rencontre un homme, mon père. Ils se croisent la rue à New York, ils prennent un café. Le jour après, il l'appelle, il dit, je dois vous voir. Et il lui demande de la marier, elle dit oui. Mmh. Et depuis ce jour-là, jusqu'à maintenant, ils sont ensemble. Et bien sûr, ça a complètement brisé le cœur de ma grand-mère, parce que ma mère, elle était supposée de marier un homme qui allait remettre ce support financier dans la famille, et tout le monde allait être content.
Elle remettre en scène toutes les familles,
ouais. Exactement. Et non, elle s'en va, elle fait son mariage dans une caravane, et elle a ses enfants, et elle met tout dans nous. Et donc,
elle a une influence très importante sur vous.
Ouais, c'est ça, parce que elle s'est dit, après toute son histoire et son enfance, elle s'est dit, la seule chose qui peut donner de la liberté, c'est quand on sait créer quelque chose de rien. Et donc, c'est pour ça que nous, on est cinq, j'ai quatre frères et sœurs, on est tous des artistes. Pour elle, elle a assumé ça. L'appartement, rien n'était sacré, rien n'était trop nettoyé ou trop parfait. La maison, c'était un atelier et tout était possible.
Mais elle vous a appris effectivement à faire quelque chose de vos mains, vous en l'occurrence le piano. C'est elle aussi qui vous a transmis
ce goût pour la sape et la mode qui vous a forgé aussi ce look très brit, excentrique qui vous définit?
Nous, on a grandi avec la mode. On allait à des shows de couture.
Elle vous a emmené à votre premier show haute couture à 2 ans, en poussette.
Exactement. J'y allais. Moi, bien sûr, ça m'intéressait pas du tout, mais quand même, c'est du théâtre. L'atelier était dedans. L'appartement, et donc il y avait des fils de tissu partout, on a vécu avec ça. Moi, je peux vous dire totalement l'odeur d'un rouleau de tissu. On y allait, moi et mes frères et sœurs, un vendredi soir, on attendait ma mère en train d'acheter ses tissus. Donc la mode, c'est pas la mode.
Et elle traduit chez vous un goût, une esthétique, une démarche. D'ailleurs, vous créez vous-même tous vos costumes, et ce style est à la fois théâtral et dissipé. Vous avez été l'ambassadeur de Paul Smith, vous avez collaboré avec Christian Louboutin, le photographe de mode Peter Lindbergh a réalisé votre dernier clip Last Party. La mode fait partie de votre identité, elle est finalement à tous les étages de la fusée Mika.
Mais ça, c'est les good guys dans la mode.
Ouais.
La mode se divise entre les gens qui sont vraiment bien et les gens qui sont un peu monstrueux. Et donc, qui sont méchants,
ouais,
et qui sont snobs, qui s'amusent pas et donc ce qu'ils font, c'est moins beau. Mm. Parce que c'est moins dans l'émotion. Quand on regarde les grands héros de la mode, il y avait toujours ce côté-là de fragilité, de danger, le côté humain de Schiaparelli. Même Saint Laurent, il avait cette fragilité humaine qu'on ressentait.
Alors, vous l'avez dit, l'appartement familial était un atelier de couture, notamment. La couleur, c'est donc un héritage familial et très oriental. Vous en avez une approche très désinhibée, vous osez les mélanges et ça claque. C'est une affirmation de soi, finalement. C'est la punk ou brit attitude.
C'est un mélange. Par exemple, ce que je fais, moi, c'est des influences très britanniques. Au même temps, il y a une sorte de le côté oriental avec la joie, avec une sorte de chaleur où on peut danser et pleurer au même temps. Et ça, c'est pas du tout britannique. Donc, il y a un énorme contraste. Parce que je viens de plusieurs endroits.
C'est cosmopolite, effectivement,
c'est
votre
ça,
mère.
J'ai assumé ça. Mmh. Et ça s'entend dans ma musique. Ce qui veut dire que je viens pas d'un son, je travaille jamais dans un style particulier. Je me permets de m'attacher à quelque chose un peu plus libre. Et c'est pour ça que aussi mes références que j'aime, on a parlé un peu de Fellini. Mais Fellini, c'est vraiment quelqu'un qui adorait la surdité et la poésie aussi absurde. Mais quand on pense au film de Fellini, c'est vraiment ça. C'est toujours en mouvement. Que les choses ne sont pas rigides, pas figées, et qu'on ne doit pas trop respecter la tradition et d'où on vient, parce que ça nous bloque le potentiel de où on peut aller.
Mika, vous êtes effectivement, par votre mère, libano-syrien, par votre père, américain. Comment s'exprime ce melting pot de culture dans vos chansons? Quelle est la part, finalement, d'Orient et d'Occident en vous?
Comme vous êtes franco-grec. Et ça se voit dans l'expression d'un regard, ça se voit dans la manière qu'on offre quelque chose à boire ou à manger, ça se voit, je sais pas, c'est le mélange se ressent tout de suite, dans tout.
Mais est-ce que le sang libanais ne prime pas sur le reste?
Ah mais bon, bien sûr, si on a 10% de Libanais, ça peut très facilement devenir 90%. Et aussi, je dois dire que le Liban, et particulièrement l'histoire du Liban, ça a toujours été un pays extraordinaire. La confrontation de la Méditerranée, de l'Europe continentale, le Moyen-Orient. La confrontation aussi, mais la cohabitation des différentes cultures et des différentes religions.
Absolument.
Des juifs libanais, des musulmans, des chrétiens, des maronites, des jésuites, ça continue, des malkites, des catholiques romains. Il y avait tout ça, mais cette cohabitation dans un endroit extrêmement petit géographiquement et aussi avec des montagnes qui sont juste à côté, alors c'est encore plus exagéré.
Très encaissé.
Exactement. Mmh. Et ça a marché pendant des années. Il y avait de l'eau qui venait de la vallée de Beka. Il y avait le vent de la mer, il y avait les bateaux et les influences qui venaient de l'Europe et du monde entier. Alors, c'est une culture extraordinaire avec des gens qui sont assez impressionnants quand on pense à l'influence des Libanais autour du monde par rapport à la population et la géographie de ce pays. Mais avec la guerre, l'instabilité, les influences politiques externes. C'est un pays qui a été torturé, mais qui a quand même une résilience aussi hallucinante que son influence autour du monde. C'est un pays qui a une mythologie en suspension.
Vous êtes aussi libanais par votre sens de la famille, de la tribu, du clan qui vous structure et qui structure aussi toutes les cultures méditerranéennes. C'en est même l'un des principaux piliers chez vous, la famille.
La famille, oui, absolument. On est 5 enfants. Il y a mes parents, et mes parents sont toujours ensemble. J'ai toutes mes tantes, qui sont comme des autres mères. Il y a Bella, Bella.
Qui est Bella ?
Bella, c'est une femme espagnole de 95 ans. C'était la nanny qu'on avait rencontrée dans la rue, sur sa bicyclette, et elle est devenue la nanny de mon petit frère. Mais il y avait des moments où ma famille pouvait la payer, pouvait pas la payer. Il y avait des moments où elle était en train de donner de l'argent à ma famille aussi. Et c'était un truc, elle est devenue partie de la famille. À part ça, il y avait aussi plein d'autres gens. Il y a un jeune homme chinois qui est devenu partie de la famille, qui a inspiré beaucoup de chansons dans moi. Il y a une femme libanaise. Il y a tout un clan. Et c'est un clan.
Donc c'est la famille de sang et la famille choisie, élargie.
Exactement, mais tout le monde devient. Et quand vous regardez le clip Grace Kelly, je faisais ça avec une metteur en scène anglaise. Et elle était bien, elle voulait faire quelque chose de très simple. Et ensuite, elle a dit, ensuite on fait une fête. Et je dis, mais quelle sorte de fête ? Elle a dit, oh, je sais pas, on prend des extras. Et je dis, mais on prend des extras ? Vous êtes folle ou quoi ? Ma première vidéo, on prend des extras, je fais la fête avec des mannequins. Faut pas me faire chier, franchement, on prend ma famille.
Ouais.
Et si vous regardez à la fin du clip de Grace Kelly, vous voyez tout le monde, même Bella, c'est la vieille femme
espagnole
avec des cheveux blancs.
Le Club Mika, finalement, c'est une petite PME familiale.
Ouais, c'est ça, très simplement.
Ouais.
ça aide parce que ça nous permet de faire des choses dirigées par l'amour de faire des choses. Et
mais on a le sentiment que c'est un acte collectif chez vous.
C'est un acte, totalement, c'est toujours
important.
Un acte collectif.
Ouais.
Et sur la table, dans la cuisine.
À 8 ans, votre famille connaît un revers de fortune. Votre père fait faillite après avoir été retenu 7 mois à l'ambassade américaine au Koweït pendant la guerre du Golfe. Ça a été un marqueur important pour vous, Mika, cette rupture.
La déstabilisation a été très formative dans
ma vie.
Ouais, et aussi dans la vie de mes frères.
Qu'est-ce qu'elle vous a appris ? Qu'est-ce qu'elle vous a appris ?
De pas s'attacher à des choses qui peuvent disparaître. On peut oser un peu plus quand on sait que les choses ne sont pas très stables.
Donc ça vous a donné finalement le goût du risque ?
Ouais, le courage.
Le courage.
C'est un sentiment de valeur. Le concept de où est-ce qu'on peut créer de la valeur ? Comment est-ce qu'on peut créer de la valeur dans nous-mêmes et aussi dans une famille. Et c'est pas l'argent. Hein.
Autre événement déterminant, à 11 ans, je le disais, vous êtes viré du lycée français de Londres. Cela a dû être un soulagement de ne plus être la tête de turc de vos petits camarades. C'est de ce harcèlement scolaire qu'est née votre empathie pour les rejeter, parce qu'il est beaucoup question dans vos albums de l'exclusion, du droit à la différence, des préjugés.
Absolument. C'est pas nécessairement la chose la plus destructive de se sentir à part de temps en temps. Ça peut renforcer. Qu'est-ce qu'on fait quand on se sent à part ? On prend la chose qui est la plus près, qui peut nous donner du courage, un sentiment de valeur, c'est notre différence, nos particularités, et on les exagère.
Ouais. Vous avez cultivé votre singularité beaucoup.
Ouais, mais je pense qu'on le fait tous.
Un enfant qui se cherche sans se reconnaître parmi ses camarades, le harcèlement scolaire se porte toujours très bien. Vous le savez, en 2015, il s'est même largement banalisé. 1 200 000 jeunes en sont toujours victimes aujourd'hui. Le réalisateur Xavier Dolan a réalisé le clip d'Indochine, College Boy, Hardcore et Salvateur. C'était en 2013.
Je serais trop différent pour leur vie si tranquille pour ces gens.
Alors ça commence par des boulettes de papier que lancent des ados, des fils de riches en costume cravate sur l'un de leurs copains de classe. Et ça se termine par une crucifixion avec clous, crachats, urine. Les filles se cachent les yeux mais filment avec leur portable. Les profs ne voient rien et l'on comprend juste par une image que ce garçon lynché a du vernis à ongles et que c'est son identité sexuelle qui dérange et lui vaut cette violence.
Moi j'étais en pension et je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui un jeune garçon ou une jeune fille qui se fait un petit peu foutre de sa gueule parce qu'il est, que ça soit à Montréal, que ça soit à Londres, que ça soit parce qu'il est gay, ça arrive tous les jours, donc ça fait partie de la vie. Et c'est surtout sur l'intolérance de la différence.
Nous sommes sur France Inter avec un original, le genre à venir en classe avec son sapin de Noël, Mika, est notre invité. Vous avez aussi été humilié au collège, victime de l'effet de meute, en toute impunité jusqu'à ce que votre père intervienne. Qu'est-ce que l'artiste doit à ses blessures d'enfance, finalement à cet enfant persécuté et inadapté à la cruauté ambiante ? Qu'est-ce que vous lui devez à cet enfant ?
Bah, c'est assez difficile vraiment de répondre d'une manière honnête.
Pourquoi ?
Ah, parce que on dit toujours que ouais, regardez, c'est super. Mais la vérité, c'est qu'on n'oublie jamais ces gens. Et on n'oublie jamais ce qu'ils ont fait. Jamais. On est tellement négatif sur la mémoire de ces personnes qu'on ne veut même pas gaspiller le temps d'une vengeance. Mais quand même, ça reste négatif. C'est un drôle de mix.
Qu'est-ce que vous avez fait de cette colère ? Elle vous a été utile ?
Moi, j'avais de la chance parce que j'avais une famille très forte et donc elle était un peu mangée par le collectif qui m'attendait à la maison. Et aussi, j'étais... C'est la discipline, en fait. C'était la discipline de la musique et du chant qui m'a éventuellement donné une porte de sortie.
Oui. Alors,
mais je le savais pas. Hein.
Alors effectivement, votre mère vous a déscolarisé et vous a confié à une prof de chant russe qui vous sort de votre isolement proche de l'autisme.
Ouais, c'est ça. Mais je voulais pas le faire. Je pleurais tous les jours. J'étais jeune. 9 ans, 10 ans, on pleure tous les jours quand on veut pas faire quelque chose. Et spécialement quand on doit faire quelque chose pour 2 heures ou 3 heures par jour.
Mais c'est la musique qui vous a permis de vous réintégrer au monde.
Je me suis réintégré dans un autre monde. Ça m'a donné un monde alternatif parce que j'ai commencé à travailler. Et là-bas, je suis arrivé dans des jobs où j'avais une responsabilité, je me préparais.
Vous étiez chanteur d'opéra à 13
ouais,
ans.
Et publiquement. Et je travaillais avec des adultes et ils me payaient. Je recevais des chèques à mon nom. Alors là, c'est fini. C'était clair. J'allais à l'école et je me disais, bon, j'ai un autre job. Ça va.
Donc finalement, la musique, ça a été à la fois un exutoire, une bulle, une armure. Elle vous protège.
Elle me protège et elle m'a durci dans les bons endroits. Elle m'a donné les muscles là où il faut.
C'est grâce à cette prof de chant que vous avez commencé par composer vos premières chansons à 11 ans ou à ce morceau de Nirvana,
ouais.
Heart Shaped Box.
Heart Shaped Box, j'adore.
J'ai lu, Mika, que c'est après avoir écouté ce morceau que vous vous êtes mis au piano pour écrire votre premier morceau. C'est une légende urbaine ou c'est vrai?
C'est un peu une légende urbaine, mais ce morceau, j'adorais, même quand j'étais très jeune. Ma sœur écoutait ça un peu, Yasmine, mais moi, j'adorais le drame. C'était du drame, c'était de l'attitude, c'était gothique et macabre en même temps, mais en toute simplicité, avec les cheveux sales, je me disais, ça c'est cool.
Alors d'autres ont forgé plus sûrement votre identité musicale, et d'abord, Harry Nilsson.
Ah ouais. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying.
Only the echoes of my mind. Vous aurez reconnu la bande-son de Midnight Cowboy avec John Voight et Dustin Hoffman. Le songwriter Harry Nilsson a été une source d'inspiration forte pour vous.
Je dois dire qu'il a une qualité dans sa voix. C'est une chose magique que très peu de chanteurs ont. Lui, il avait ça. Et Frank Sinatra, il avait ça. Parce qu'il y a énormément de gens qui disent « Oh, Frank Sinatra, pourquoi ? C'était un grand mafieux. » Mais non ! Quand on écoute les disques de Frank Sinatra, qu'il avait commencé à faire à 16 ans, il y a un truc. On veut lui donner un câlin. On veut lui dire, tout va bien, ne t'en fais pas, moi je peux être ton pote. C'est cette qualité-là que les deux ont vraiment.
Donc c'est des référents importants pour vous.
Ouais.
Alors, comme la nature a horreur du vide, les analogies ne manquent pas, et notamment avec Queen. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my Nous sommes sur France Inter avec un soprano surdoué, un funambule de la pop monté sur ressort, Mika. Last Party est une ode à Freddie Mercury. Comme lui, vous avez une voix à la tessiture exceptionnelle, capable de monter dans les aigus. C'est lui qui vous a appris que l'on pouvait mélanger la pop et le classique.
Oui, exactement. Et aussi le faire avec une chanson, mais créer une chanson efficace. Pas un truc comédie musicale ou théâtrale, pas trop lourd. Mais ça m'a aussi expliqué qu'il y a de la cinématographie dans la chanson. Parce que là, par exemple, ce qu'on vient d'entendre, ça change. À un moment, on est avec un chœur. Ensuite, on est dans une petite pièce. Et ensuite, quand la voix monte, on est dans une cathédrale avec un reverb. Et c'est comme une animation. Ça, c'était du cinéma.
Mika, où ailleurs êtes-vous allé faire vos emplettes? Du côté de la variété œcuménique des années 70, chez Boy George, George Michael, ABBA, les BO Disney, les Bee Gees, les Pet Shop Boys, Elton John?
Je sais pas, la moitié des choses dans cette liste j'aime bien, et l'autre moitié je déteste. Je peux pas me dire qui c'est.
Ah si!
Non!
Alors, quelles sont vos influences?
Moi?
D'autres, oui.
Mes autres influences, c'est c'est le piano de Nina Simone. C'est des détails, en fait. Le classicisme du piano de Nina Simone, parce qu'elle, elle voulait être pianiste classique, mais elle pouvait pas avoir une bourse pour étudier, parce qu'elle était black, et ils ont dit non. Et donc, elle avait toujours ce feu dans elle, parce qu'elle voulait faire du bar, mais elle est partie faire du jazz, parce qu'elle devait avoir un métier. C'est triste, hein. Mais si on entend son piano, c'est là où la confrontation entre les deux univers, c'est... Alors, dans ça. Et quoi d'autre? Je sais pas.
En tout cas, vous avez écouté beaucoup Prince et David Bowie.
Ah ouais.
Et parmi les chansons qui ont sous-titré nos vies, il y en a une que j'aime particulièrement, Major Tom, de David Bowie. La voici rien que pour vous, Mika.
Merci.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
7, 6.
Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know.
La vie est un jeu. Daphné Roulier.
Nous sommes sur France Inter avec un globe singer aussi talentueux que sautillant, Mika. Vous collectionnez les enregistrements radio de Barbara. Que ouais. Trahit cette addiction? Vous avez aussi quelque chose d'elle en vous?
Bon, premièrement, je l'adore. Et c'est une obsession qui s'en va pas. Je parlais avec Zazie et Zazie me disait « Barbara, j'adorais, mais à la fin... » Après 3 ans de bouffer du Barbara, ça suffit, on a besoin de quelque chose d'autre. Et ça m'a fait sourire parce que moi, c'est drôle, je collectionne les MP3 ou les trucs que je peux trouver sur Internet d'enregistrement de radio parce que en ce temps-là, elle se mettait dans un studio et elle chantait en direct. Alors, par exemple, il y a une chanson que j'adore qui est La Solitude. Moi, j'en ai 17 différentes versions de La Solitude et chaque fois, dépendant de, je sais pas, qui elle a baisé le soir avant, ou si elle avait bu ou pas bu, si elle avait mal au ventre, je peux imaginer tout un scénario. Elle souligne certaines paroles et certains moments.
Donc, variation mélodique.
Émotionnelle.
Émotionnelle.
C'est un peu de la psychothérapie. J'essaie de faire un collage de psychothérapie de Barbara pendant de son état dans ses radios.
Les femmes vous inspirent beaucoup.
Ouais.
L'une d'entre elles en particulier que vous avez fait tourner dans l'un de votre clip, elle me dit.
Ah, la punk.
J'écoute uniquement les chansons. Parce qu'elles disent la vérité. Plus elles sont bêtes, plus elles sont vraies. D'ailleurs, elles sont pas bêtes. Qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent « Ne me quitte pas, ton absence a brisé ma vie. Oh, je suis une maison vide sans toi. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre. Sans amour, on n'est rien du tout. »
Truffaut disait d'elle qu'elle vient d'un pays qui n'existe pas. Fanny Ardant, plus ardente que jamais dans La femme d'à côté. C'est une muse. Qu'est-ce qui vous émande chez elle? Ça part de ténèbres.
C'est Truffaut a dit que c'est une femme
qui vient d'un pays qui n'existe pas.
C'est exactement ça. On peut la décrire exactement de cette manière. C'est du réalisme magique dans une personne qui peut un peu transformer là où elle est. J'appelle ça aussi l'effet Amélie Poulain. Mmh. Alors on voit cette rue normale, on voit la station de métro et ensuite on voit Amélie et l'effet d'Amélie dans la station de métro et ça transforme tout. Il y a une poésie qui sort. Mais avec Amélie, c'est plutôt ludique et plutôt naïf. Innocent avec Fanny, elle réussit à faire ça, mais c'est pas du tout avec une innocence. C'est le feu, c'est le sexe, c'est l'intelligence, c'est la culture. C'est aussi le côté très normal. Elle est quelqu'un qui a un appétit pour une petite conversation aussi qu'une grande histoire d'amour. Et elle peut transformer là où les endroits où elle est.
Et elle vous a transformé aussi ?
Un peu, je la trouve très, très inspirante. Je trouve que les femmes qui sont fortes sont très inspirantes.
Il y a une influence dont on n'a pas parlé et qui est pourtant très importante, ce sont les illustrateurs. Oui. Vous collectionnez les planches originales, notamment d'Hergé ou de Charles Schulz, et vous vivez entouré de dessins de Richard Sala, Jim Woodring, oui. Tony Millionaire, oui. David McKee, le papa d'Elmer, c'était ouais. Le fond multicolore qui a joué à des enfants. Qui
un grand génie.
Les références visuelles participent également à votre processus créatif. Il faut rechercher des influences de ce côté-là aussi.
C'est en fait, avec quelque chose comme une illustration, toute l'émotion, elle est provoquée dans nous par une illustration qui est très simple. Un stylo noir et de la couleur, souvent assez simplifiée, pas très compliquée. Ça fonctionne comme ça.
Parce que vous écrivez aussi, oui c'est ça, vous écrivez un bout de chanson, vous faites un dessin, vous regardez des esquisses et tout part de là.
Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment, ça me rend très triste parce que je le faisais beaucoup. Après, j'ai arrêté de le faire.
De dessiner ?
Mais j'essayais de comprendre pourquoi j'ai arrêté. Mais en fait, c'était parce que mes livres étaient volés. Je faisais un concert. C'était un de mes premiers concerts. J'avais un grand livre avec énormément de chansons.
Et d'illustrations ?
Et d'illustrations que j'avais fait avec toutes les références, les changements, les évolutions de plein de chansons que j'ai jamais fait, mais aussi des grands tubes qui sont devenus des grands tubes. Et quelqu'un l'a volé.
Donc, vous avez arrêté de dessiner ?
Je sais pas, j'ai jamais gardé tout ça dans un livre. Maintenant, c'est tout un peu sur des feuilles partout dans ma maison. Aujourd'hui, je suis très fâché que ce livre a été volé parce que c'était 7 ans de mon travail et c'était piqué dans 2 secondes. Et si un jour, ce livre va arriver, je suis sûr qu'il est probablement oublié quelque part dans un placard ou était jeté dans la poubelle, mais ça me rend triste. Mais bon, ça
peut-être
va,
que tout
mieux,
simplement,
ça me libère.
Peut-être que tout simplement, Mika, vous vous suscitez du fétichisme?
Ah, le fétichisme. C'est quelque chose que j'adore. Parce que ce fétichisme, quand vous regardez le packaging de mes albums, un truc que je fais moi-même avec ma sœur, c'est toujours pour rendre un truc qui est fait avec du papier et du plastique beaucoup plus précieux, de rendre l'objet normal et banal, de le transformer en objet fétiche.
Donc c'est comme ça, on pourrait résumer votre musique à ça, au fétichisme?
Je sais pas. Non. Non.
Un dernier mot et l'on doit se quitter. Ce 4e album, c'est celui de la libération.
Probablement.
No Place in Heaven.
Ce que j'aime bien avec ce titre, c'est qu'en fait, c'est un titre assez joyeux. J'ai dû le justifier quand j'étais à Rome en faisant de la presse, parce qu'ils se disaient mais c'est anti-religieux. J'ai dit mais non, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est juste que ça demande pas permission. C'est ça, il ne faut pas demander de permission, il faut oser de ne pas demander de permission.
Il faut oser transgresser.
Oui, mais avec douceur.
Merci Mika.
Merci à vous.
No Place in Heaven est à écouter et à réécouter en boucle. Merci également à Amel Kaldi, Anne-Sophie Ladonne, Antoine Fortin et Charles Danet pour la réalisation de cette émission que vous pouvez également réécouter ou podcaster sur le site de France Inter. Prenez soin de vous.